Docteur Michel Yao, bonjour.
Bonjour.
Au niveau de l'OMS, comment vous analysez la résurgence des cas d'Ebola dans la région de Beni pendant que l'épidémie était déjà presque maîtrisée?
C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pour cela qu'il faut maintenir un niveau de surveillance communautaire pour que lorsqu'on déclare qu'il n'y a plus de cas, il y a extrêmement zéro cas. Je vois que ce fait-là a entraîné beaucoup de découragement parce qu'on s'attendait tous à une déclaration après une épidémie qui a été longue, avec toutes les péripéties de personnes qui ont perdu leur vie, mais je pense qu'il faut rapidement se ressaisir. On est en train, avec les équipes du ministère de la Santé, d'investiguer pour savoir la cause de cette résurgence. Mais on peut rassurer que si tout le monde se remet rapidement au travail, on a plus ou moins les solutions maintenant. Il y a une forte expérience au niveau local, et donc avec une bonne mobilisation, on pourrait s'y conscrire rapidement et repartir vers le décompte pour la déclaration de la fin de cette épidémie.
Est-ce qu'au niveau de l'OMS, vous avez des inquiétudes, surtout que Ebola a refait surface à Beni, alors que la ville est confrontée aussi au coronavirus?
Oui, il y a une inquiétude. Hein, lorsqu'on lutte contre deux épidémies ou deux ennemis, évidemment que les forces s'affaiblissent parce qu'on est obligé de répartir les forces sur ces deux crises. Donc, le souhait, c'est de finir rapidement avec Ebola. En ce qui concerne COVID, la stratégie idéale pour l'Afrique, c'est de pouvoir identifier les cas très tôt et avoir une réponse beaucoup même plus vigoureuse que la réponse contre Ebola, parce que c'est une maladie qui a une transmission par voie aérienne, donc qui se propage très vite. Mais si on circonscrit bien les cas, si on fait une bonne investigation, on met en place un mécanisme de suivi des contacts, on peut les circonscrire. Et ce n'est pas encore tard de le faire dans la région de Beni et même dans le Nord Kivu, en mettant beaucoup plus d'intensité qu'on a mis au niveau de la réponse pour Ebola.
Quelles pourraient être les conséquences si, par exemple, il y a explosion des cas d'Ebola à Beni?
Avec ces deux épidémies qui ont parfois des mécanismes de contrôle légèrement différents, notamment la fermeture des frontières pour limiter les mouvements de population et la contamination, on a du mal en ce moment à acheminer des intrants et à acheminer des personnes. Donc imaginez-vous que cette situation s'aggrave, l'approvisionnement serait difficile, les mouvements de population seraient aussi difficiles et il s'agirait alors de déplacer des populations, que ce soit même des agents de santé, qui pourraient éventuellement être déjà contaminés par le COVID. Et donc ça serait extrêmement compliqué si on n'arrête pas rapidement ce foyer. Il faut absolument que toutes les ressources soient mobilisées pour cette fin-là.
Qu'est-ce qui est fait pour éviter que cette situation que vous venez de décrire arrive?
Nous avons rapidement remobilisé les équipes qui étaient encore sur le terrain. Heureusement, on était en phase de réduction, mais avec COVID, la réduction n'a pas pu se faire rapidement. Donc les équipes sont heureusement sur le terrain. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une collaboration comme cela l'a été dans les dernières semaines avant le décompte. Il faut une collaboration entière des populations pour qu'on puisse circonscrire ce foyer d'Ebola avant que cela ne devienne encore une autre vague difficile à contrôler.
Qu'est-ce que l'OMS est en train de faire au niveau de la sous-région, l'Afrique subsaharienne, pour combattre la propagation du coronavirus dans plusieurs pays?
L'OMS, c'est une agence technique, donc nous continuons à apporter cet appui technique-là. Nous avons, comme d'habitude, des experts qui sur le terrain, même dans le cas de la RDC, comme dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, des experts qui conseillent dans l'analyse de la situation, dans la mise en place des mécanismes de surveillance, mais aussi sur les mécanismes de traitement et aussi de laboratoire. Nous avons rapidement pu passer de deux laboratoires au niveau de l'Afrique subsaharienne qui étaient au Sénégal et en Afrique du Sud à 45 pays qui ont maintenant des moyens de détection, y compris la RDC. Donc c'est un des domaines où nous intervenons. Et le dernier domaine, puisque l'accès aux équipements et aux intrants est difficile, nous essayons d'approvisionner de façon globale pour faciliter l'accès d'intrants critiques vers tous ces pays-là. Nous essayons aussi à compiler les connaissances au niveau international pour que ces connaissances soient mises au profit des pays africains pour redresser ou bien mettre en place leurs réponses.
Docteur Michel Yao, merci.
Merci beaucoup pour l'opportunité.